Voix Nue. Toute cette semaine, Séverine Yatta rencontre Françoise Zonabel. Ce soir, les Dames de Paris.
Bonsoir Françoise Zonabel.
Bonsoir.
Alors hier, nous avons parlé notamment de votre entrée en anthropologie et entre autres à ce fameux laboratoire d'anthropologie sociale qui avait été créé et dirigé par Claude Lévi-Strauss et puis Isaac Kiva qui vont initier, Isaac Kiva surtout, mais enfin avec Claude Lévi-Strauss quand même, une anthropologie de la France avec l'idée aussi de pluridisciplinarité, de grandes enquêtes à ce moment des années 60. Et puis on a commencé à parler bien sûr de votre première grande enquête, Minot. Donc dans le Châtillonnais, avec trois autres chercheuses, Yvonne Verdier, Marie-Claude Pingot et Tina Jolas, vous partez donc sur le terrain, presque une dizaine d'années, à Minot, petit village de 450 habitants. Vous allez faire des allers-retours entre Paris et Minot. Vous allez chacune, parce que vous avez des spécialités, travailler sur certaines problématiques. Et vous allez aussi vous échanger les données collective. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler, Françoise Zonabel, alors le début, parce que en fait, vous allez aussi changer en cours de route, non pas de problématique, mais d'objet en tous les cas, peut-être de recherche, enfin, et vous allez changer de méthodologie aussi.
Oui, c'est vrai que très vite, et la monographie qu'on nous avait chargé de faire disparaît de notre horizon, parce qu'on s'aperçoit que au fur et à mesure de notre travail et d'accumulation des données, eh bien que chacune d'entre nous avait des points de vue différents et avait envie de travailler sur des sujets différents. Donc, réunir en une seule monographie, d'ailleurs un seul ouvrage, des données qui partaient un peu dans tous les sens, est-ce que ça avait un sens? Et puis aussi, ce qu'on avait décidé de faire pour justement se différencier peut-être de ce qui était arrivé avec les autres grandes enquêtes rurales qui ont eu lieu sur la France, c'est de publier au fur et à mesure nos travaux. C'est-à-dire ne pas attendre qu'on ait l'autorisation du directeur de l'ARCP pour publier, ce qui a fait que effectivement beaucoup de temps s'est écoulé avant les résultats, qu'adviennent les résultats de Plausévet. L'Aubrac, ce sera, mettra 12 ans, je crois, avant d'être publié. On n'a pas voulu refaire ça. Et justement, ce qui nous a semblé beaucoup plus intéressant, et c'est d'une part ne plus se focaliser sur cette monographie, mais décider de travailler chacune sur les objets qui nous intéressaient, avec quelque chose qui peut-être fait notre singularité et aussi l'intérêt de Minot, c'est que, ayant commencé à travailler ensemble, on a continué. Toutes les données qu'on a enregistrées sur Minot, tous les entretiens qu'on a faits, toutes les lectures qu'on a pu faire chacune de notre côté en prenant des notes, ont été en quelque sorte mutualisées entre nous. Et pour autant, on a écrit des choses différentes.
Chacune a écrit des choses différentes.
Avec une même ethnographie. Et parfois, quand on se relit les unes les autres, on s'aperçoit qu'on a pris la même phrase d'un informateur, mais on en déduit des choses différentes. Donc c'est une sorte d'ethnologie à facettes qu'on a fait entre nous et qui s'est peu à peu concrétisée par des articles qui ont été publiés très tôt parce qu'on souhaitait les soumettre justement à la critique de nos collègues anthropologues exotiques qui nous disaient « ce que vous faites, bon, c'est pas la vraie ethnologie ». Donc, nos publications, d'une part parce qu'il fallait que Lévi-Strauss nous a demandé de participer à son séminaire, de présenter nos recherches sur Minot dans son séminaire, et à partir de là, bien, on s'est dit pourquoi pas publier au fur et à mesure de ce que nous trouvions des points sur le village, la parenté au village, la façon dont on a travaillé, quitte à nous reprendre dans un article suivant en disant « ben là, on s'est trompé, on n'avait pas les données qu'il fallait à ce moment-là, mais maintenant, voilà, on peut mieux comprendre comment se passent les stratégies matrimoniales ». Et c'est cette façon de faire qui, je pense, donnait l'élan à l'ethnologie de la France. Peut-être que cette présentation concrète, directe et rapide des résultats sur Minot ont fait que les autres membres du laboratoire, les exotisants, comme on disait, eh bien, nous ont admis parmi eux au même titre.
En tous les cas, pour pénétrer un peu plus dans ce travail de terrain de l'ethnologue. Vous, au début, Françoise Zonabène, vous le dites, hein, vous avez l'intention de travailler donc sur la parenté, de remonter les généalogies. Donc, il s'agit d'aller dans les registres paroissiaux, de construire, de constituer un arbre généalogique. On y reviendra. Vous avez déposé vos archives à la Maison des sciences de l'homme de Dijon. Donc, un incroyable arbre généalogique. Alors, voilà, vous commencez à travailler dans ce sens-là. Et puis, voilà, vous allez vous rendre compte que finalement, oui, il ne s'agit peut-être pas de faire ça. Vous allez changer de...
Mais c'est fascinant, les registres paroissiaux, hein, et les états civils. Ils sont là, tranquilles, ils vous attendent. Et puis, c'est une quête minutieuse. Mais voilà, vous arrivez à... Mais ce qui était plus important, c'est ce que nous disaient les gens. C'est-à-dire que nous n'avons fait les généalogies des gens de Minot qu'à partir des généalogies qu'on avait d'abord établies avec eux oralement. Et donc, on s'est dit, on va remonter plus haut. Leur mémoire ne va pas au-delà de leurs arrière-grands-parents. Parfois, d'ailleurs, ils nous demandaient, vous ne pourriez pas aller voir dans, si par hasard vous trouvez un peu plus haut. Donc, par curiosité, on allait... Effectivement, c'est comme ça. Et comme ils nous parlaient tous de ces familles Girardot, on s'est dit, il doit y avoir un ancêtre commun qui a fondé le village et on va pouvoir retrouver ces ancêtres Girardot. On s'est aperçu que c'était totalement faux, que effectivement, il y avait des familles Girardot, mais que le village était bien... existait bien avant ces Girardot, mais comme ces Girardot avaient été trois frères et avaient donné naissance à beaucoup de familles différentes dans le village, ce qui était important pour leur mémoire, c'était de se dire « je suis des Girardot ». Donc ce qui nous a plus intéressés, c'était non pas la réalité de cette généalogie, mais beaucoup plus de ce qu'ils en disaient. C'est-à-dire, au fond, ce qui est intéressant, c'est de faire parler les généalogies, de les faire parler par les gens eux-mêmes. Pourquoi est-ce qu'ils ont épousé telle personne et pas telle autre, etc. Et que, peu à peu, ils nous ont expliqué, mais vous voyez bien, si j'ai épousé cette personne-là, c'est que je la connaissais. Je dis, vous la connaissez comment ? Mais parce que c'était le frère de la sœur, du beau-frère, de mon oncle, etc., etc. Et, si vous voulez, c'est cette façon d'enchaîner des parentés qui n'étaient pas des parentés au sens biologique du terme, bien sûr, parce qu'elles étaient des parentés très lointaines, mais de façon de dévider cette chaîne généalogique qui les nouait les uns aux autres, qui nous a semblé quand même extrêmement important. Ça voulait dire que là, dans cette société, se gardait la mémoire de chaînes d'alliances.
Les renchaînements, c'est ce que vous avez appelé.
Et c'est eux qui nous ont dit, vous voyez, comme ça, les alliances se renchaînent. Et c'était ces renchaînements d'alliances qui nous ont permis de comprendre que la parenté, mais cette parenté-là, c'est-à-dire pas la parenté au sens c'est mon cousin, Germain, etc., mais cette parenté de connaissance organisait les mariages et organisait les stratégies matrimoniales qui faisaient que jamais on épousait quelqu'un de trop loin ni de trop près. Parce que trop près, c'était interdit par l'Église.
C'est l'équilibre social.
Voilà, c'est l'équilibre. Social. Mais ce qui était aussi important, c'est de savoir que les sociétés qu'étudiaient nos collègues exotisants ou dans les structures élémentaires de la parenté, de Lévi-Strauss, il avait montré que les sociétés se divisaient, il y avait trois grands groupes de sociétés, celles qui, à structure élémentaire, c'est-à-dire où le conjoint était désigné, on savait avec qui on devait se marier et qui on ne devait pas épouser. Et c'était généralement un parent. Mais si on devait l'épouser, ça devenait un allié. Et puis les sociétés à structure complexe, où ce n'était plus un parent qu'on vous ordonnait d'épouser, mais un individu dans un groupe de parents, dans un clan matrilinéaire ou patrilinéaire, selon les sociétés. Après, on tombait dans les sociétés complexes, c'est-à-dire les nôtres. Des sociétés où personne ne vous disait qui vous devez épouser. Eh bien, en travaillant à Minot, on s'est aperçu que dans ces sociétés-là, bien sûr, des sociétés closes, des communautés locales qui sont restées régionalement marquées, la parenté jouait toujours un rôle. Donc il y avait une sorte de continuum entre les sociétés élémentaires, les sociétés semi-complexes et les sociétés complexes. Il y avait là quelque chose qui montrait que toutes les sociétés jouaient de leur parenté d'une certaine manière pour mettre en place des stratégies matrimoniales ou des façons de penser l'alliance. Et nous avons pu montrer, si vous voulez, en faisant parler les généalogies. Nous, on a pu montrer que, au fin de compte, oui, certainement, dans ces sociétés, on ne se mariait pas avec son cousin germain parce que c'était interdit par l'Église à l'époque, mais aussitôt que tombait l'interdiction, eh bien, on allait chercher là des conjoints préférentiels pour que les familles restent ensemble d'une certaine manière et qu'on élimine en quelque sorte l'étranger aussi.
Mais en tous les cas, Françoise Onabène, pour arriver à faire parler, à faire advenir cette parole, vous allez utiliser une opportunité, si je puis dire, parce que vous allez retrouver un fond photographique, je crois, au début de cette enquête, qui avait été délaissé et qui, du coup, va permettre à la fois, vous allez nous l'expliquer, de faire une exposition dans le village de Minot et puis de faire parler les gens à partir de photographies également.
Ça relève de nos tactiques, de nos pratiques de terrain, en fin de compte. On a fait feu de tout bois. On a utilisé les archives, on a utilisé les registres d'état civil, mais on a utilisé beaucoup les photos, c'est vrai. Et on a eu la chance à Minot de tomber sur un groupe de photos anciennes, sur plaques de verre encore, que l'ancien forgeron du village avait gardé, qui ne savait pas quoi faire et qui un jour il nous a dit « Bah tiens, j'ai ramassé ça sur le tas de fumier il y a 10 ans, ben, je ne sais vraiment pas quoi en faire, je vous les donne ». Et ces photos qui avaient été prises aux alentours de 1900-1910, qui montraient la vie du village et qui montraient, qui avaient avec des photos de mariage, des photos de communion, des photos des groupes, des processions dans le village, etc. On fait ressortir un ensemble de choses qu'on n'avait pas repérées au départ, mais surtout, elles nous ont permis, en les donnant à nos interlocuteurs du village, de les faire parler. Parce que eux, ils se souvenaient de ce temps-là, surtout les vieilles gens, et ils nous ont raconté effectivement pourquoi il y avait telle qui était la demoiselle d'honneur ici et qui était le garçon d'honneur, et que le garçon d'honneur, eh bien, il a quand même épousé la fille d'honneur 3 ans après, etc. Donc ça nous a permis de, en fin de compte, après que ces photos, eh bien, ils ont ouvert aussi leurs albums de photos à eux, pour dire, vous voyez, là, vous avez quelqu'un, mais moi, je peux vous donner aussi, j'ai le pendant de cette photo ou l'équivalent de cette photo dans mon album. Ce qui nous a permis, en fin de compte, entre les années 1900, où ces premières photos ont été prises, et puis aujourd'hui, avec les dernières que nous avions faites nous-mêmes, et puis toutes celles qu'on a retrouvées dans les albums des gens du village, eh bien, de faire une exposition au village lorsqu'on a eu un peu terminé nos travaux pour leur montrer, au fond, 100 ans de leur vie au travers des photos. Et c'est très, très drôle parce qu'on a pris à ce moment-là des photos sur les photos, c'est-à-dire des photos de Jean de Minot qui étaient en train de se regarder. C'était la mémoire de la mémoire qui nous ont permis de travailler sur Minot.
Alors vous faites toutes les quatre des allers-retours, parfois vous êtes plusieurs sur place, parfois non. Comment vous intégrez eux au village? Comment ils vont s'accoutumer aux dames de Paris? Parce que vous restez des dames de Paris, hein, quand même.
Oui, oui, mais on reste les dames de Paris. Et d'ailleurs, on a fini par comprendre qu'il fallait qu'on soit des dames. Il fallait surtout pas qu'on se mette à vouloir être comme elle, d'être les villageoises.
D'un point de vue vestimentaire, par
voilà.
exemple.
Parce qu'un jour, ce que je raconte, c'est que l'instituteur avec lequel on était devenus très amis, quand on allait au mois d'août, on habitait chez eux, enfin bon, au village, ils nous laissaient leur maison, etc. Donc il y avait cette sorte de familiarité qui s'est mise entre eux et nous. Et un jour, l'instituteur nous a dit « Mais pourquoi est-ce que, quand même, vous ne vous rendez pas compte, pourquoi est-ce que vous êtes toujours aussi moche ?» Alors que nous, on faisait des efforts avant de partir de Paris. On essayait de prendre des affaires plutôt sombres. J'essayais de passer un peu inaperçu, quoi.
Et ça, c'est un leurre.
Et ça, c'était pas ça, voilà. Nous, on était là, des chercheuses, on n'était pas elles, et il fallait qu'on tienne notre rang, notre place. Et je pense que le temps passé a joué un grand rôle. Il faut dire que à l'époque, personne ne nous pressait pour rendre public tout de suite les résultats, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais nous avons été soutenus par le laboratoire et nous avons pu prendre notre temps et donc aller et venir à Mino. Si on était restés toutes les quatre sur le terrain tout le temps, je pense que ça aurait été beaucoup trop lourd et ils ne nous supporteraient pas. Nous, on aurait voulu les faire parler tous les jours. Non, là, on a pris notre temps. Et donc, quand on partait, on revenait 3 semaines après, 1 mois après ou pas toujours les mêmes, plusieurs. Et quand on revenait, il y avait toujours quelqu'un qui nous disait « Ah oui, vous savez, la dernière fois, je vous ai dit à propos de telle personne que ça se passait comme ça, mais maintenant j'y réfléchis, eh bien ça se passait plutôt comme ça. » Et donc, vous voyez comment notre présence a été une sorte de moteur de mémoire, de leur mémoire. À partir de, je pense qu'ils parlaient entre eux de ce qu'on leur avait demandé, de ce qu'on leur avait dit. Et donc, ils nous racontaient les nouvelles interrogations et les nouvelles questions qu'ils s'étaient posées à partir de nos questions. Et donc, ils nous renvoyaient une autre mémoire que peu à peu on déchiffrait.
C'était du laisser-parler, c'est-à-dire oui. Parler de tout. Enfin, de tout et de rien, ça pouvait être... Ces cassettes ont été aussi déposées, ces entretiens, ces nombreux entretiens que vous avez faits, toutes les quatre. On parle à la fois du langage, bavé, bavassé, alors sur les mots, effectivement sur que faisait l'épicière du village, l'hôtel, qui lavait le linge au moment de... justement où cet hôtel était en activité. Et puis voilà... Les femmes, alors plutôt des informatrices, Françoise Onabène.
Oui, c'est d'abord les femmes sont peut-être plus bavardes que les hommes, mais les hommes âgés aussi aimaient beaucoup discuter avec nous. C'est vrai que, mais bon, ils n'avaient pas la même mémoire puisqu'ils n'avaient pas les mêmes pratiques, les mêmes façons de vivre au village. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec les femmes et que cette façon de les laisser parler a été, je crois, extrêmement propice pour tout ce qu'on a pu dire sur Mino. C'est grâce à eux, c'est grâce à tout ce qu'ils nous ont raconté, la façon dont ils nous parlaient, comment ils allaient au champ les vaches et au champ les cochons, comment il fallait aller demander au pardon. Enfin, tout ce qu'ils nous racontaient. Au début, quand on a commencé à être beaucoup plus rigide, nous aussi, on leur a posé presque comme des questionnaires. Et puis après, on s'est aperçu que c'était pas la peine de parler comme ça, qu'on n'apprendrait rien et qu'il fallait mieux faire venir leurs paroles, en quelque sorte, sur des sujets sur lesquels on les lançait, le malheur des femmes, la mort, le rôle de certaines femmes qui sont apparues comme importantes dans le cycle de la vie individuelle. Enfin, et c'est comme ça que peu à peu s'est mis en place des recherches dans lesquelles nous nous sommes spécialisés les unes les autres et qui ont donné naissance à ces 3 livres parus sur Mino et qui ont été écrites par chacune d'entre nous. Tina tenait plutôt à travailler sur les hommes, les embuscades et a beaucoup plus publié sous forme d'articles que sous forme d'ouvrages.
Marie-Claude Pingot, elle a plutôt travaillé sur les...
Marie-Claude a travaillé sur les transmissions patrimoniales, c'est-à-dire comment les terres circulaient au sein des générations et pourquoi elles circulaient et comment justement se faisaient les mariages d'une façon très stratégique pour pouvoir garder justement les terres, une certaine quantité de terres dans une société où chaque génération, on divisait tout, également entre tous les enfants. Donc comment cette division devait être compensée par des stratégies matrimoniales qui permettaient de remettre dans le patrimoine une partie importante de terres qui étaient parties ailleurs. Et puis, Yvonne Verdier a travaillé beaucoup sur ces femmes qui sont à chaque grande charnière du cycle individuel. Au moment de la naissance, c'est la femme qui aide, celle qui permet de faire la naissance. Après, il y a la couturière, c'est celle qui est là au mariage, qui prépare la robe de mariée, etc. Et puis il y a
la laveuse, la cuisinière.
Et la laveuse et la cuisinière. La laveuse, c'est celle qui va laver les morts à la fin de la vie, donc elle est là au bout du cycle. Et la cuisinière, c'est celle qui va faire le repas de mariage aussi, le repas de communion, etc. Et chacune de ces femmes ont un rôle particulier dans le cycle de la vie et surtout dans le maintien d'une certaine façon de vivre, de, en fin de compte, de se transmettre la coutume. C'est-à-dire des façons de faire, des façons de dire.
C'était le titre
de son ouvrage, qui permettent justement à la vie de se dérouler d'une façon harmonieuse. Et puis après, moi j'ai
trouvé, Françoise Zonabel,
la mémoire longue. C'est-à-dire cette façon dont dans cette société, bien sûr qu'ils connaissaient l'histoire historique, l'histoire avec un grand H, mais que c'était pas cette histoire-là qui était au fondement de leur façon de penser le temps et de penser le déroulement aussi du cycle de la vie. Ils ont beaucoup plus pensé à garder en mémoire cette idée d'un village qui se renouvelle au fur et à mesure des générations parce que il y avait les mines, d'où Minot. Minot vient du nom des mines de fer qui soi-disant étaient, elles existent toujours, elles sont toujours ouvertes d'ailleurs, et qui leur a donné en fin de compte le nom du village et leur mythe fondateur. Et c'était cette histoire-là qui leur est beaucoup plus importante que l'histoire de France.
Alors après une enquête, évidemment, donc on a compris, Françoise Zonabel, vous avez beaucoup publié, puis vous l'avez dit assez rapidement. Le LAS, donc le laboratoire d'anthropologie sociale, est plutôt
satisfait,
enthousiaste. Si
oui,
je puis
c'est
dire.
Vrai que bon, nos travaux, en tous les cas, au niveau du laboratoire et même de la discipline, ont été accueillis favorablement, parce que effectivement c'était une autre façon de faire l'anthropologie sociale de société dont on est proche.
Et alors par contre, ce qui va moins bien se passer, parce que c'est la problématique que se posent les chercheurs, hein, et puis les anthropologues peut-être plus que d'autres, avec les sociologues peut-être, c'est la question de la restitution aux personnes qui ont été sollicitées durant l'enquête.
Effectivement, on s'apercevra que la restitution va être difficile parce que la recherche c'est une façon de raconter une société, mais c'est une façon très particulière. Et c'est pas la même façon que si vous demandez à votre grand-mère de vous raconter autrefois. En plus, c'était à l'époque le régionalisme, montée du régionalisme, où effectivement des personnes ont travaillé sur leur village autrefois, en parlant de ce que faisaient leurs grands-parents, racontant les histoires.
Bon, tout le monde pouvait être anthropologue, quoi. Du coup, il y avait un peu cette,
oui, cette idée qu'il y avait une sorte de mélange, que ce soit le cheval d'Orgueil ou que ce soit les mémoires de ma grand-mère ou que ce soit ça. Eh bien, c'est la même chose que ce que nous avons fait. Oh, c'est pas exactement la même chose parce que nous, à partir de ce que nous avons appris sur leur façon de pratiquer leur société, nous ont permis de comprendre ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la façon de jouer de la parenté, de s'en servir, de la faire vivre, et peut-être d'une façon dont eux-mêmes, ils n'avaient même pas la conscience, en quelque sorte. C'est vrai, nous avons travaillé avec leurs mots, parce que, comme on avait enregistré, on a pu souvent donner leurs propres paroles, et puis on n'a pas voulu substituer souvent nos mots aux leurs, parce qu'ils avaient une très belle façon de s'exprimer. Donc on a emprunté leurs mots, mais ces mots-là, nous les avons ensuite analysés, expliqués autrement.
Vous avez fait votre travail.
On a fait notre travail d'anthropologue, qui est de relativiser et de comparer avec ce qui se passe ailleurs. Et à ce moment-là, eh bien, peut-être que ces comparaisons et ces façons de voir ne leur ont pas
convenu
et qu'effectivement, ils ont pensé peut-être qu'on les avait trahis d'une certaine manière.
Mais il faut préciser aussi, Françoise Zonabel, qu'il y a eu une, entre guillemets, une gaffe, comment dire, d'une journaliste aussi quand même qui est intervenue dans cette mauvaise réception. C'est une gaffe volontaire même. Hein,
c'est-à-dire que justement la façon dont nos travaux ont été repris au niveau journalistique et que la façon dont ils ont été décortiqués, non pas dans les revues disciplinaires de la discipline, mais par des revues qui s'intéressaient parce que justement il y avait cette soif de régionalisme à l'époque. Mais la façon dont les journalistes ont pensé que, au fond, si nous étions intéressés à ces gens-là, c'est qu'on les prenait pour des sauvages.
Les Indiens de Bourgogne.
Et donc, ils ont intitulé leur compte-rendu « Les Indiens de Bourgogne ». Alors, vous pensez bien que quand les gens de Minot ont vu les Indiens de Bourgogne, ils n'ont pas été très contents. Mais il y a eu d'autres cas comme ça. Mais surtout, une journaliste à qui on avait pourtant demandé de ne pas aller au village. Il faut dire qu'on a changé tous les noms. Les noms sont bien sûr anonymisés. Mais on avait eu l'autorisation par le maire de garder le nom du village. Donc, c'était pas difficile de trouver où était Minot. C'est sur la carte de France. Elle est partie et avec le volume d'Yvonne sous le bras et elle a demandé aux gens du village, alors qu'on lui avait dit surtout n'y allez pas. C'est pas comme ça que c'est possible de faire et nous surtout, on n'a pas révélé les noms. Et elle s'est fait indiquer par les gens du village qui était la sage-femme, la couturière et la cuisinière. Il y avait que la cuisinière qui vivait encore, les autres étaient mortes. Et vous savez que Yvonne a caractérisé chacune de ces femmes par une qualité ou une caractéristique, mais générique. En montrant que souvent la couturière, elle a les mœurs un peu légères. La sage-femme, soi-disant qu'elle boit, elle boit. C'est parce que elle a à sa disposition les vins. Mais tout ça, ce sont des façons, vous voyez, des choses que, comme on dit, les Bretons sont comme ça, etc. Et la cuisinière, on dit qu'elle vole. Et elle a marqué le vrai nom de la cuisinière en prenant une photo d'elle dans le journal. Et donc, quand ça s'est su, et la personne qui a été marquée comme ça dans le journal en disant « Madame Untel, la cuisinière de Minot, on dit qu'elle vole », elle a fait un procès. Et elle a fait un procès au journal, et la journaliste s'est retournée contre nous en disant « Moi, j'ai rien dit, j'ai pris ce qui était écrit dans le livre ». Mais heureusement, les jurés ont compris que, d'une part, nous, on avait fait une œuvre scientifique en changeant les noms et que c'était des caractéristiques génériques comme on trouve dans, vous savez, chaque métier est caractérisé par un certain nombre de traits de caractère et que donc, on avait fait vraiment une œuvre scientifique et que la journaliste, elle, avait fait une œuvre particulièrement démoralisante et difficile à supporter pour cette femme-là. Et elle a été, bien sûr, obligée de payer un dédit. Mais à Minot, même malgré le dénouement du procès, on nous a dit « Oui, mais si vous aviez rien écrit et si vous n'étiez pas venu, ça ne se serait pas passé comme ça. Il n'y aurait jamais rien dû. » Et vraiment, nous ne sommes jamais retournés à Minot.
Merci Françoise Onaben.
À
demain.
Merci à vous.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Séverine Liattard avec Françoise Onaben. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon. Prise de son Benjamin Chauvin. Réalisation Manouchak Fachaï. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.